Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
La personne de Jésus-Christ demeure au cœur du message de la Bible et de la foi chrétienne. Il est donc essentiel de comprendre sa vie et son enseignement, ainsi que le sens de sa mort et de sa résurrection.
C'est dans cette optique que nous continuons aujourd'hui notre étude sur l'Évangile de Marc. Nous allons aborder le chapitre 14. Mais avant de lire le texte pour aujourd'hui, je voudrais souhaiter la bienvenue à Jean-Philippe, qui va nous aider à mieux comprendre le message qu'il contient. Jean-Philippe, bonjour.
Bonjour Yann, et bonjour à tous. Merci pour votre invitation.
Jean-Philippe, avant de passer à notre lecture biblique, pouvez-vous nous parler du contexte de ce chapitre 14 dans le récit de l'Évangile de Marc ?
Oui, bien sûr. Jésus, accompagné de ses disciples, s'est rendu à Jérusalem pour y célébrer la fête de Pâques. Il savait qu'il y serait mis à mort, mais il savait également qu'en se livrant ainsi sur la croix, il apporterait aux hommes et aux femmes le salut dont ils avaient besoin. Marc chapitre 14 rapporte les deux derniers jours de Jésus avant sa crucifixion. Il raconte aussi son arrestation. Aujourd'hui, notre lectrice va lire les 11 premiers versets.
On était à deux jours de la Pâque et de la fête des pains sans levain. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchaient un moyen de s'emparer de Jésus par ruse et de le faire mourir. Car ils se disaient « Il ne faut pas agir pendant la fête pour ne pas provoquer d'émeutes parmi le peuple. » Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant le repas, une femme s'approcha de lui, tenant un flacon d'albâtre rempli d'un parfum de nard pur de grande valeur. Elle cassa le col du flacon et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns s'en indignèrent et murmurèrent entre eux. « Pourquoi gaspiller ainsi ce parfum ? On aurait pu le vendre et en tirer plus de 300 pièces d'argent qu'on aurait donné aux pauvres. » Et ils ne ménagèrent pas leurs reproches à cette femme. Mais Jésus dit « Laissez-la donc tranquille. Pourquoi lui faites-vous de la peine ? Ce qu'elle vient d'accomplir pour moi est une belle action. Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous, et vous pourrez leur faire du bien quand vous le voudrez. Mais moi, vous ne mourrez pas toujours. Cette femme a fait ce qu'elle pouvait. Elle a d'avance embaumé mon corps pour préparer mon enterrement. Vraiment, je vous l'assure, dans le monde entier, partout où l'Évangile sera annoncé, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle vient de faire. À la suite de cela, Judas Iscariot, l'un des 12, alla trouver les chefs des prêtres pour leur proposer de leur livrer Jésus. Sa proposition les réjouit, et ils promirent de lui donner de l'argent. Dès lors, il chercha une occasion favorable pour leur livrer Jésus.
Merci. Ce texte est étonnant. Jésus ne laisse personne indifférent. Sa présence suscite des réactions, souvent diamétralement opposées. Ainsi, nous rencontrons d'une part une femme qui exprime un dévouement débordant pour Jésus, puis des pharisiens et Judas nous sont dépeints. Ces derniers éprouvent de la haine pour Jésus et ils désirent se débarrasser de lui. Un complot et une trahison se mettent donc en place.
C'est exact, Yann. Dans un premier temps, nous réfléchirons sur l'attitude de cette femme et sur les leçons que nous pouvons en apprendre. Ensuite, nous chercherons à comprendre les motivations de Judas et nous en tirerons un avertissement.
Notons d'abord que cet incident a eu lieu à Béthanie, un village proche de Jérusalem. Un grand repas semble avoir été organisé dans la maison d'un homme nommé Simon le lépreux.
Or cela est fort étonnant.
Pourquoi ?
Parce que d'habitude, les personnes atteintes de la lèpre étaient marginalisées. Elles étaient obligées de vivre à l'écart de tous, tellement les gens craignaient d'attraper une telle maladie.
Et pourtant, beaucoup de personnes semblent être rassemblées dans la maison de ce lépreux. Que pouvons-nous en conclure ?
Le texte n'est pas explicite, mais je propose l'interprétation suivante. Simon était auparavant atteint de la lèpre, mais à présent, il ne l'est plus. Ensuite, mais ce n'est pas clairement indiqué dans le texte, il se pourrait que ce soit Jésus qui l'a guéri et que ce festin est organisé en vue de célébrer sa guérison et d'honorer celui qui la lui a accordé.
Merci. Et donc la femme qui apparaît pour déverser un parfum de luxe sur la tête de Jésus n'est pas la seule à vouloir l'honorer.
Non. Offrir l'hospitalité, inviter à un repas, sont aussi des façons d'honorer quelqu'un et d'exprimer sa reconnaissance.
Revenons alors sur cette femme. Que savons-nous sur elle ?
À vrai dire, nous ne savons rien, si ce n'est ce qu'elle a fait pour Jésus ce jour-là. Nous ne connaissons ni son nom, ni son arrière-plan. On peut supposer qu'elle était relativement aisée, car le parfum qu'elle a versé sur Jésus coûtait fort cher. En dehors de cela, nous ne savons pas pourquoi elle a accompli un tel geste. On peut se demander si Jésus l'avait guérie d'une maladie ou si elle avait reçu le pardon de ses péchés. Nous l'ignorons. Ce que nous pouvons affirmer, c'est que son geste extravagant exprime sa reconnaissance et son amour envers Jésus.
Et pourtant, son geste est critiqué par certains invités. Pourquoi ?
La raison apportée par ces personnes est qu'il s'agit d'un gaspillage. Elles auraient préféré vendre ce parfum et en distribuer les bénéfices aux pauvres. À première vue, leur raisonnement semble être sage et pieux. Mais Jésus ne les approuve pas. Derrière leurs propos pieux se cachent probablement la jalousie et une froideur de cœur.
Merci, mais Jésus ne paraît-il pas un peu indifférent au sort des pauvres dans ce contexte ? Car il déclare « Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous ».
Oui, mais il ajoute « Vous pourrez leur faire du bien quand vous le voudrez ». Non, Jésus n'est pas du tout indifférent au sort des pauvres. Tout au long de son ministère, il a fait preuve de compassion envers eux et il leur a apporté son secours. Cependant, Jésus sait qu'il va bientôt souffrir pour ensuite mourir. Alors la passion de cette femme scintille telle une étoile dans l'obscurité de la nuit. Par son geste, elle rappelle que Jésus est digne de notre reconnaissance. Elle proclame qu'il est bon de lui exprimer notre amour, même de façon extravagante. Par son geste, cette femme offre probablement ce qu'elle a de plus précieux à celui qui allait donner sa vie. Jésus nous aime. Il nous aime au point de mourir sur une croix pour obtenir notre pardon et nous ouvrir le chemin qui mène à Dieu. Comment alors ne pas l'aimer en retour ?
Mais même de nos jours, notre amour pour Jésus peut être mal compris ou mal considéré.
Hélas, c'est bien vrai, Yann. Aussi difficile que cela puisse paraître, il faut travailler pour ne pas laisser les reproches et les médisances étouffer notre amour pour Jésus. Cette femme a dû braver les regards et les paroles désapprobatrices des gens froids et jaloux. Mais elle a été bien accueillie par Jésus lui-même. Et c'est cela qui importe. Voilà ce qui est le plus important. Jésus a approuvé sa démarche et comme il le lui a déclaré, encore aujourd'hui, nous nous souvenons d'elle.
Nous apprenons que notre relation avec Jésus est essentiellement une relation d'amour. Mais avouons-le, trop souvent nos cœurs se refroidissent. Comment donc faire grandir notre amour pour Jésus et ainsi ressembler davantage à cette femme ?
Nous devons nous souvenir de l'amour de Jésus pour nous en méditant sa parole au quotidien. Nous pouvons faire aussi nôtre cette prière de l'apôtre Paul trouvée dans sa lettre à l'église d'Éphèse au chapitre 3, les versets 17 à 19.
Que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Enraciné et solidement fondé dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître, et vous serez ainsi rempli de toute la plénitude de Dieu.
Merci. Nous venons donc de rencontrer deux personnes, Simon et cette femme dont nous ignorons le nom, qui ont exprimé tout leur amour envers Jésus. Mais il faut à présent parler des pharisiens et puis de Judas.
Oui, ce texte commence et se termine avec une note sombre. Au début du récit, nous apprenons que les pharisiens cherchent un moyen de faire mourir Jésus sans susciter la colère des foules, et puis à la fin, nous apprenons qu'une occasion se présente, car le disciple Judas est prêt à trahir son maître.
Mais pourquoi les pharisiens s'acharnent-ils ainsi contre Jésus ?
Tout au long de l'évangile de Marc, nous constatons la tension montée entre Jésus et les pharisiens. En fait, l'enseignement apporté par Jésus est différent de celui des pharisiens. Ces derniers ont beaucoup critiqué Jésus. Jésus, à son tour, les a remis en question, en dénonçant leurs abus dans le domaine religieux. De plus, les pharisiens tenaient de bonnes places dans la société. Ils étaient connus, bien considérés, et ils détenaient un certain pouvoir. Ils devaient se sentir menacés par Jésus, car ils auraient beaucoup à perdre si jamais ils devaient renverser les puissances mises en place.
Et pouvons-nous en apprendre quelque chose ?
Même de nos jours, beaucoup refusent de reconnaître que Jésus est Seigneur, car ils pensent qu'ils perdraient trop s'ils le suivaient. Il est vrai que lorsque nous nous tournons vers Jésus, il faut changer. Toute pratique corrompue doit céder la place à l'intégrité et la poursuite de la justice. L'immoralité sexuelle doit cesser pour permettre plutôt à la fidélité et à la pureté de s'épanouir. Certains ne veulent pas arrêter leur pratique du mal, et du coup ils rejettent Jésus et s'opposent à l'Église.
Et que leur diriez-vous ?
Je leur dirais qu'ils poursuivent un mauvais raisonnement. Ce que nous pouvons perdre en nous tournant vers Jésus a vraiment peu de valeur, comparé à tout ce que nous recevons de lui. Citons l'apôtre Paul une fois de plus. Dans le chapitre 3 de sa lettre aux Philippiens et au verset 8, il déclare
« Tout ce en quoi je pourrais me confier, je le considère comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela, oui. » Je le considère comme bon à être mis au rebut, afin de gagner le Christ.
Merci. La fin de notre émission approche. Pouvez-vous nous parler brièvement de Judas ? Pourquoi va-t-il trahir Jésus ?
L'entretien de Jésus avec cette femme semble être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Il est difficile de savoir pourquoi. Il est probable qu'en devenant disciple de Jésus, Judas avait certaines attentes le concernant. Et puis il constate que Jésus n'est pas celui qu'il pensait être. Judas pensait-il devenir riche et influent en suivant Jésus ? Il réalise que cela n'arrivera jamais. Il en devient déçu, voire dégoûté, au point d'être prêt à trahir Jésus. Il y a là un avertissement. Même de nos jours, certains viennent à Jésus le cœur rempli de mauvaises attentes, de faux espoirs. Certains pensent, peut-être comme Judas, que Jésus les aidera à devenir riches et influents. Puis cela ne se réalise pas, et certains abandonnent la foi. Judas, comme beaucoup de nos jours, voulait imposer sa volonté à Jésus. Or, nous ne pouvons pas maîtriser ni dompter le Seigneur. C'est à nous de nous soumettre à lui, et non le contraire. Voulez-vous, comme Judas, vous servir de Jésus ? Ou bien voulez-vous, comme cette femme anonyme, l'aimer tel qu'il est ? Quel exemple allez-vous suivre ?
Merci Jean-Philippe. Voilà une question fort importante, dont les paroles nous interpellent.
Nous poursuivrons notre étude sur l'Évangile de Marc lors de notre prochaine émission Espérance aujourd'hui. En attendant de vous retrouver, je vous dis au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.